Bonsoir, pour ma part aussi. Pourquoi se marier ? Demandait Brisson, un philosophe néopythagoricien qui est l'auteur d'un traité d'économie domestique datant probablement de la fin du 1er siècle avant notre ère ou du début du 1er siècle de notre ère. En réponse à sa question, il avance deux raisons. La première tient au fait, je cite, tient au fait que la plupart des affaires dont un homme doit s'occuper se trouvent à l'extérieur de son domaine. Il est obligé de s'absenter et de le laisser sans sa surveillance. De ce fait, il n'a pas d'autre choix que de trouver quelqu'un pour en assurer la sécurité et le gérer à sa place. On ne peut espérer qu'une autre personne accordera la même attention à sa propriété que le propriétaire lui-même. Comme il en est ainsi, la meilleure solution pour l'homme est d'avoir un partenaire qui possédera son patrimoine avec lui, qui s'en occupera et le gérera comme lui-même. La deuxième raison que la nature exige est liée à la reproduction. Un mariage, une fois accompli, il est nécessaire, dit Brisson, que le mari expose d'abord clairement à sa femme les raisons de son choix, et notamment, et je cite, « qu'il n'avait pas voulu la prendre pour femme seulement pour avoir des enfants, mais aussi pour qu'elle s'occupe de lui et surveille ses affaires en son présence comme en son absence, quand il est en bonne santé comme quand il est malade, pour qu'elle ait la garde de toutes ses richesses et l'aide dans toutes ses affaires. » Brisson énumère cinq raisons qui font d'une épouse un partenaire idéal. L'intelligence, la sophrosyné, l'humilité de l'âme envers son mari, la tendresse envers ses enfants et un comportement juste à l'égard des esclaves et des domestiques. Et il ajoute, je cite, « Si quelqu'un doute de ce que nous avons dit sur la nécessité qu'une femme réunisse toutes ses vertus, nous pouvons affirmer que c'est bien le cas et qu'elle est sans aucun doute la gardienne et la gérante de la propriété, celle qui calcule ce qui est en jeu et qui est chargée de diriger le domestique ainsi que toute personne qui appartient au ménage. » Les idées qu'expose Brisson sur le mariage et sur les relations entre les époux, les protagonistes de la vie familiale, nous semblent en partie bien connues, mais elles nous surprennent aussi parfois. Comme le faisait déjà Xénophon dans l'Économique, Brisson reconnaît la valeur du travail de la femme d'un point de vue éthique aussi bien qu'économique. La complémentarité des époux est au cœur de sa conception du mariage. Cette approche n'est pas nouvelle. Xénophon avait le premier exposé que l'homme et la femme ont pour administrer la maison des qualités différentes qui se complètent mutuellement. L'homme doit apporter les biens dans le ménage, tandis que la femme doit les administrer sagement et les faire fructifier. Aristote reconnaît lui aussi la complémentarité du mari et de la femme, mais sa hiérarchie clairement établie entre la personne qui gouverne, l'archon, et celle qui est gouvernée, l'archoménos, le conduit à définir la relation domestique fondamentale comme une domination despotique, pour reprendre une expression de Eckhart Schütrumpf. Il s'éloigne ainsi de l'idée que formulait Xénophon d'un objectif commun dans la gestion de la maison. Pour Antipatros de Tars, philosophe stoïcien du IIe siècle avant notre ère, la communauté domestique représente pour l'homme un pas vers la perfection. Une maison ou une ville serait imparfaite si elle n'était composée que d'hommes ou de femmes. Les fonctions que remplissent les femmes comme administratrices du foyer et productrices d'enfants font d'elles une seconde main ou une seconde jambe pour l'homme. Dès lors, celui-ci peut pleinement consacrer son temps libre aux activités politiques et aux affaires de la police. En réalité, la complémentarité présentée par Antipatros n'en est pas une, car il ne s'agit pas de deux parties différentes qui se compléteraient mutuellement, mais de la duplication d'une partie, celle de l'homme, grâce à l'aide d'une femme perçue comme presque asexuée. Par rapport à Xénophon, Aristote ou Antipatros, il est clair que la complémentarité dont parle Brisson comporte des aspects traditionnels, mais qu'il s'agit malgré tout d'une conception tout à fait nouvelle. L'épouse n'est pas comprise comme le simple complément du mari, mais comme sa partenaire. Elle n'est plus censée se consacrer exclusivement à l'administration du ménage et à l'entretien des biens de la famille par son travail. Elle doit gérer l'ensemble du patrimoine. Ce n'est plus la perpétuation de l'oïkos qui prime, mais le bien-être du mari et le patrimoine. On ne trouve rien chez Brisson à propos de la signification du mariage pour la polis que l'on pouvait percevoir chez Aristote ou Antipatros. De manière générale, ces textes mettent l'accent sur l'importance du mariage avant tout dans la perspective des aspects économiques. Mais il faut aussi souligner le caractère dynamique de ces idées, tant par rapport au mariage que, même si c'est dans une moindre mesure, à la relation entre les époux. À ce propos, les textes reprennent certes des conceptions traditionnelles de ce que les femmes ont le droit ou non de faire, mais on décèle dans ce discours lui-même l'existence d'espaces de liberté. À première vue, comme l'a fait justement remarquer Simon Swain, ces textes témoignent, et je cite, de ce que l'idéal de Pénélope et d'Ulysse a longtemps perduré dans ses œuvres. Mais c'était Ulysse qui commandait. On peut observer que ces auteurs accordent un certain pouvoir aux femmes ou les en privent en fonction des intérêts du mari. Mais en même temps, la mise en pratique de ces principes exigeait un repositionnement correspondant des maris vis-à-vis de leurs épouses, de leurs enfants et de leur environnement en général. Ainsi, bien que l'établissement de nouvelles règles ait concerné en premier lieu les femmes, les hommes ne sont également sentis obligés, bien qu'indirectement, de s'adapter eux-mêmes à ces règles. En outre, le fait que plus tard, lors de la période basse hellénistique, on trouve beaucoup de textes traitant directement ou indirectement du mariage, trahit l'existence d'un besoin de conseil de la part des maris. Ce besoin peut s'expliquer par des changements du contexte social susceptibles de mettre en danger leur situation financière et surtout leur statut social. Il fallait réagir à ces dangers par des stratégies nouvelles. À cette question s'en rattache une autre, qui concerne la relation entre ce type de texte et la pratique sociale. Ces écrits sont-ils le reflet d'une pratique vécue et de mentalité quotidienne? Les sources documentaires hellénistiques confirment-elles ou contredisent-elles les approches formulées dans ces textes? Qu'en est-il de cette séparation entre les sphères d'action respectives des conjoints dont parlent les écrits d'économie domestique sous couvert de complémentarité? Et dans quelle mesure l'idée que le mari est le principal responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies relatives au patrimoine et au statut de la famille est-elle conforme à la réalité, sachant que ces stratégies devaient être soutenues et appliquée par tous les membres de la famille ensemble, et en particulier par les épouses? L'acte fondamental du mariage, à savoir l'engyé ou ekdosis, la dation, est un rituel accompli par deux hommes. Le père ou le tuteur de la mariée d'une part, et le marié de l'autre, au moyen d'un acte de langage un don geste de la main. Je te donne cette jeune fille comme épouse afin que tu procrées des enfants légitimes. Je la reçois. Ce dialogue définissait la différence entre des relations informelles et des relations manifestant publiquement une liaison socialement reconnue entre un homme et une femme. Par le rituel de l'inguier, qui comprenait le don de l'épouse, mais aussi celui de la dot, la validité juridique du mariage fut d'abord associée au droit successoral, puis au droit civil. Le but du mariage était en effet de garantir la légitimité des enfants issus de la relation matrimoniale et leurs droits dans la famille et dans la police. L'accomplissement du rituel du mariage institue une réalité sociale qui repose sur la relation asymétrique des conjoints. Le père de la mariée et le marié jouent tous deux le rôle actif dans la célébration du mariage, tandis que la mariée reste passive, voire invisible. La tutelle de la mariée et la dot sont transférées du père au marié dans les conditions convenues. Cependant, en orientant les actions et les attentes des participants dans une certaine direction, le rituel occulte certaines réalités comportant des dangers susceptibles de provoquer un changement dans cette relation asymétrique. La dot est une de ces réalités. Mais que représente exactement la dot et que signifie sa remise à l'époux? Dans la plupart des systèmes d'auto du monde grec antique, la dot directe était un transfert de propriété par lequel la femme recevait une part de l'héritage familial, remplaçant ceux dont elle aurait hérité à la mort des parents. La dot était considérée comme le patrimoine de la femme et servait à assurer sa sécurité financière. En cas de divorce ou de dissolution de mariage sans enfant par le décès de la femme ou de l'homme, elle devait être restituée à la femme ou à sa famille. Aussi, la dot est-elle protégée juridiquement dès le début du mariage par l'établissement d'une hypothèque, de l'apotimema, sur les biens du mari à hauteur de la dot. Lorsque celle-ci est remise au mari, les biens qu'elle comprend sont incorporés au patrimoine de la famille. Cela soulève plusieurs questions. Quels sont les droits que la remise de la dot confère au mari sur les biens qu'elle comprend pendant la durée du mariage? Un droit total ou un droit limité de possession et de disposition? Dans la première hypothèse, le mari peut gérer ou même vendre les biens d'auto sans avoir à obtenir le consentement de sa femme qui en est la propriétaire réelle. Dans l'hypothèse d'un droit de disposition limité, la femme doit donner son consentement à toutes les actions et les transactions impliquant des objets de la dot. Étant donné qu'une dot composée d'argent et ou des biens immobiliers constitue une propriété que l'on peut faire fructifier, la question se pose également de savoir qui a un droit sur les bénéfices dégagés. Seront-ils ajoutés en totalité au patrimoine familial pendant le mariage et en partie à la dot en cas de dissolution du mariage, ou reviendront-ils au patrimoine du mari? À côté de la dot, et si elle consiste en argent et ou en biens immobiliers, des bénéfices qui en viennent, il ne faut pas oublier le travail effectué par l'épouse pendant le mariage qui contribue également à augmenter le patrimoine familial. La clause de divorce dans le code de Gortine résume avec beaucoup de clarté les différentes catégories des biens que l'on pouvait rencontrer dans un mariage. Et je cite la clause. « Si un mari et une femme divorcent, La femme emporte les biens apportés par elle en mariage en son époux. La moitié des fruits, s'il y en a, provenant des biens qui lui appartiennent, et la moitié des étoffes qu'elle a tissées, s'il y en a, et en outre, 5 statères si le divorce est imputable au mari. Contrairement à la législation athénienne, le code de Gortyne considère ainsi que la dot est un bien productif et que l'épouse contribue directement au patrimoine familial. Cela montre les divergences qu'il pouvait y avoir dans la façon que de concevoir le patrimoine propre des femmes et par conséquent les positions respectives des époux dans la communauté matrimoniale. L'acte par lequel on remet la femme et la dot au mari impliquait donc une série de champs de pouvoir et d'interaction que l'on ne peut pas inférer directement du rituel de l'anguille. En mettant l'accent sur la relation asymétrique des époux, le rituel de l'anguille dissimule le danger d'un repositionnement des acteurs accompagnant la remise de la dot. C'est cette crainte que l'on perçoit dans les recommandations de Platon et d'Aristote d'abolir la dot ou de la réduire fortement, ou encore dans les lamentations du mari dans le Plocyon de Ménandre qui se sent tyrannisé par sa riche épouse, maîtresse, despoïna de la famille. La dot représente décidément plus que la simple contribution de l'épouse au ménage commun, et la femme est plus que le récipient dans lequel on mettait la propriété, pour reprendre un fameux aphorisme de Hans Julius Wolff. Dans les sources de l'époque hellénistique, inscriptions et papyrus, on relève un intérêt particulier porté à l'institution de la dot et aux questions de droit de la propriété dans les relations matrimoniales. Les sources épigraphiques à ce propos, auxquelles je vais d'abord m'intéresser, proviennent principalement de la zone géographique des Cyclades. Aucune autre région de Grèce n'offrant autant de documents à ce sujet. Les limites temporelles et géographiques de ces sources ne permettent sans doute pas de généralisation, mais je pense qu'elles nous donnent un bon aperçu des pratiques et des stratégies familiales de cette époque, ainsi que de l'orientation que prenaient alors les changements socio-historiques. Parmi ces documents, nous allons examiner deux inscriptions, les registres des dotes de Mykonos et de Ténos. Il s'agit d'extraits des archives publiques dans lesquels ont été gravés et de ce fait exposés au public un certain nombre des dotes, sans doute enregistrées l'année même où elles ont été inscrites. L'inscription de Mykonos, qui date de la fin du IVe siècle avant notre ère, représente un cas unique, car à l'exception de l'inscription très fragmentaire de l'île voisine de Ténos, on n'a retrouvé aucun autre document de ce genre. Il s'agit de 11 enregistrements concernant 11 dotes inscrites à l'occasion de l'enguie. Les enregistrements ne sont pas nombreux, mais complétés par des documents provenant d'autres îles, ils sont très instructifs à propos de la composition et du montant des dotes, ainsi que des difficultés éventuelles rencontrées par les tuteurs lors du versement de la dot. Il faut souligner deux points. Le premier concerne la composition des dotes. Les dotes consistaient principalement en argent, mais les enregistrements mentionnent également des terres, des maisons et des esclaves féminins. Les maisons et les esclaves ne sont pas estimés en argent, mais comme c'était l'usage à Athènes, mais les vêtements qui faisaient partie avec les bijoux du trousseau personnel de la femme et en tant que tels n'étaient pas soumis à une estimation monétaire à Athènes, le sont ici. Dans deux des trois cas concernés, les vêtements représentent même la moitié de la valeur de la dot versée. Pour d'autres îles des Cyclades également, on a trouvé des documents attestant que la dot était constituée d'un mélange d'argent et de biens-fonds, comme le montrent les transactions financières réalisées par des femmes Athénos, les prêts accordés par le sanctuaire de Délos à des femmes sur la base de leurs biens immobiliers, ou encore les bornes de pierre ou horoi placées sur des maisons ou des domaines faisant partie des dotes que l'on trouve à Syros et à Naxos. Le deuxième point concerne la valeur monétaire des dotes. Si l'on examine les montants des dotes à l'écart et l'écart entre leurs valeurs à Mykonos et à Ténos, force est de constater qu'ils étaient assez considérables pour ces petites sociétés insulaires à la population peu nombreuse et comportant une classe supérieure numériquement plus restreinte qu'Athènes. Conjugué aux difficultés que beaucoup de pères des futures épouses éprouvaient à s'acquitter de la dot, éventuellement par versement échelonné, cette observation laisse penser qu'il fallait faire preuve d'une certaine générosité pour verser une dot sur ces deux îles. Malgré les différences locales, on peut donc dire que la coutume de donner des biens-fonds en dot était courante dans les Cyclades. Ce fait contredit la théorie selon laquelle la terre était la première et la principale source de richesse pour les Grecs et qu'en conséquence, il était impassable de céder une maison ou un terrain faisant partie du patrimoine paternel sous forme de dot. On constate au contraire non seulement que les maisons et les biens fonciers faisaient partie des dotes, mais puisqu'ils n'étaient pas l'objet d'une estimation financière, qu'ils étaient considérés comme des biens personnels de l'épouse. En d'autres termes, le mari ne pouvait ni les vendre, ni les remplacer par leur valeur monétaire en cas de divorce. Mais quel objectif poursuivait celui qui incluait une maison ou un terrain dans la dot qu'il versait? La réponse habituelle selon laquelle il s'agissait d'aider ainsi le mari ne rend pas compte de ce que l'on constate. La contribution à l'entretien de la mariée était déjà assurée par la remise d'une modique somme d'argent. Mais les maisons et les biens fonciers sont des valeurs qui peuvent être utilisés de plusieurs façons. Les maisons peuvent servir de logement au jeune couple qui peut aussi administrer le terrain. De même, la femme accompagnée de son mari ou le mari à titre d'administrateur de la dot pouvait mettre une maison en location, affermer une propriété ou encore, comme nous le verrons, l'utiliser pour contracter une hypothèque. L'inclusion de biens immobiliers dans la dot pouvait donc contribuer à consolider ou à accroître les ressources financières de la famille. Il reste à savoir si, en théorie, l'épouse avait également des droits sur les profits résultant de ses biens, c'est-à-dire sur les bénéfices réalisés en commun. La protection du patrimoine de l'épouse contre d'éventuelles atteintes de la part du mari et surtout la garantie des restitutions de la dot en cas de dissolution du mariage sont des aspects que nous connaissons grâce aux orateurs attiques. On a essayé de limiter ces dangers par une procédure d'estimation de la dot que j'ai dit en dernier, c'est qu'on appelle l'apotimema. Cette procédure a également été appliquée à Amorgos, Naxos et Syros sous une forme modifiée, parallèlement à l'authentification des accords d'auto. Celle-ci était effectuée ou bien en titre privé, ou bien dans le cadre d'un enregistrement public, comme c'était le cas à Mykonos et à Athénos. L'intérêt actif que portait la police au mariage et surtout aux dots, on pourrait presque parler d'intervention étatique, est très instructif. Bien sûr, l'acte de contracter en mariage était une question familiale qui avait des conséquences publiques. Il créait des structures, des hiérarchies et des identités familiales et contribuait à reproduire les lois et l'idéologie familiale de la police. Les significations du mariage ont toujours dû être adaptées à de nouvelles circonstances, comme le montre l'extension du lien entre mariage et droit successoral à un lien entre mariage, droit successoral et citoyenneté après la loi de Périclès à Athènes. On peut considérer que la décision d'une police d'enregistrer les mariages avec leur dot était une mesure destinée à prévenir d'éventuels procès qui auraient pu concerner la légitimité du mariage, les droits civils, la restitution d'une dot ou encore son versement incomplet. Cela n'explique néanmoins pas pourquoi ces enregistrements ont été gravés sur la pierre et exposés publiquement. La stèle comportant le registre dotal de Mykonos, au verso de laquelle a été gravé par la suite le fameux calendrier de sacrifice, a peut-être été placé au Lénaïon, le sanctuaire de Dionysos Lénaïos. La police légitimait ainsi non seulement le mariage, mais aussi et surtout la dot, comme un de ses éléments constitutifs indispensable. Un document inhabituel, un registre des ventes trouvé à Ténos et datant de la fin du IVe siècle environ, nous montre comment une dot pouvait devenir un bien productif. Il y a question d'opérations de prêts privés sous forme de ventes fictives, c'est-à-dire de vente à pacte de rachat, de prasis epi lycei. Avec la remise du montant du prêt, considéré comme le prix d'achat du bien, faisant fonction de garantie, l'acheteur, c'est-à-dire ici le créancier, devenait propriétaire du bien en question. Mais ce transfert de propriété était provisoire. Si le vendeur, c'est-à-dire le débiteur, remboursait son emprunt en temps voulu et en totalité, l'achat se trouvait ipso facto dissous. Le débiteur avait un droit de rachat et pouvait généralement rester en possession du bien qu'il avait temporairement vendu en garantie du prêt. Les objets de ces opérations de prêt étaient des biens fonciers et immobiliers provenant principalement de dots ou de parts d'héritage. Dans une société où la dot et le partage de la succession représentent les lois de la circulation des biens, ce sont précisément ces actifs qui sont utilisés pour accroître le capital investi. Roland Etienne a appelé « affairisme rural » ce type de circulation des biens dans le cadre d'une société agricole comme celle de l'île de Ténos. Selon lui, les transactions hypothécaires telles qu'on les pratiquait à Ténos au moyen de ces contrats d'achat, compte tenu des intérêts sur la somme prêtée, étaient tout à fait rentables. Parmi les 50 personnes impliquées dans cette transaction, 24 sont des femmes qui, accompagnées de leur mari ou d'un autre parent masculin, concluent des contrats de prêt, règlent des dettes ou accordent elles-mêmes des prêts. Quelles fonctions remplissaient ces activités de prêt? Quel rôle le mari et la famille jouaient-ils dans ces opérations? Et surtout, en quoi les femmes contribuaient-elles, se faisant à la situation économique de la famille? Les cas les mieux documentés donnent à penser que les femmes ne cherchaient pas à satisfaire leurs propres besoins en contractant ou en accordant un prêt, mais qu'elles agissaient avant tout en tant que membres de la famille afin de répondre aux besoins de leurs proches. On voit par exemple une femme accompagnée de son mari à titre de tuteur contracter un prêt sur sa maison et ses terres, à la suite de quoi son mari prête en son propre nom ce montant emprunté à une tierce personne. Pour le dire avec Antipatros de Tarse, deux mains valent mieux qu'une, ou encore, il vaut mieux avoir deux capitaux dans la famille qu'un seul. Un autre exemple montre que les femmes participaient à ce genre de transactions par solidarité familiale. Il s'agit de la famille de la riche veuve Iphicrité et de ses trois enfants, deux fils et une fille célibataire qui ont effectué plusieurs opérations de prêt. La famille d'Iphicrité possédait de vastes propriétés foncières, ce qui permettait à ses membres de négocier des prix tout à fait exceptionnels, pas seulement pour l'île de Ténos. Le but des transactions effectuées par la mère et la fille était, me semble-t-il, lié aux affaires et aux besoins financiers de l'un des fils, qui avait sans doute mal estimé un achat de biens immobiliers. Consolidation et accroissement du patrimoine familial, soutien des activités économiques des membres masculins de la famille, telles semblent avoir été les raisons pour lesquelles les femmes, en tant que propriétaires, non seulement se lançaient dans des activités économiques, mais étaient même dans l'obligation de le faire. Le droit de disposition de la femme sur ses biens lui permettait de développer des activités économiques qui, toutefois, profitaient surtout aux membres masculins de la famille, et en premier lieu à son mari. Une solution élégante pour contourner les restrictions accompagnant la remise de la dot au mari. L'analyse des rapports entre époux dans la perspective juridique des régimes matrimoniaux ne se limite pas à l'examen du droit dotal. La principale question à ce sujet concerne en effet l'existence d'actifs autres que la dot et l'héritage paternel du mari, qui auraient été acquis ou reçus en héritage pendant le mariage par l'un des deux époux ou par les deux ensemble, et des effets qu'ils peuvent avoir sur les rapports entre époux au point de vue du droit patrimonial. Les affranchissements d'esclaves donne un aperçu sur la situation financière du maître ou des maîtres. Les esclaves pouvaient en effet non seulement avoir été amenés dans le mariage par l'un ou l'autre des époux, mais ils pouvaient également avoir été acquis pendant le mariage, que ce soit à l'aide du patrimoine dotal de la femme ou de ses moyens propres, ou grâce au patrimoine du mari, ou encore avec les moyens communs des deux époux. Les documents dont nous disposons indiquent qu'il existait une série de variantes de deux cas de base, à savoir l'affranchissement individuel et l'affranchissement conjoint, en fonction des différents contextes locaux et des différentes conceptions juridiques qui règnent. En général, les femmes avaient presque autant d'esclaves que les hommes et elles intervenaient dans tous les types d'affranchissement communs. Ces affranchissements effectués par les deux époux ne permettent néanmoins pas de savoir si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens ou de la communauté réduite aux acquis, ou si, par exemple, leur communauté de biens était restreinte à l'achat de ces esclaves. Mais ils nous font très bien comprendre qu'il y avait différentes masses de biens dans le mariage, comme le montrent les cas d'affranchissement conjoint et d'affranchissement individuel réalisés par des couples mariés, par exemple en Béotie hellénistique. D'après les sources, on peut supposer que le régime matrimonial était en général un régime mixte avec des variantes. Certaines parties des biens, dots et patrimoine, appartenaient à chacun des époux. C'est ça le régime matrimonial de séparation de biens et n'était jamais mis en commun, même si les biens étaient réunis pendant la durée du mariage et administrés par le mari. Une autre partie des biens relevait du régime matrimonial de communauté des biens ou du régime de communauté réduite aux acquis si les biens en question avaient été acquis pendant le mariage et rattachés au patrimoine commun. Pendant la durée du mariage, cette communauté de biens était purement latente. Elle ne devenait explicite que lorsqu'un bien appartenant au patrimoine commun, par exemple un esclave, devait être donné ou lorsqu'une transaction était effectuée par les deux épouses, époux conjointement. En cas de divorce ou de décès du mari dans un mariage sans enfant, la femme conservait ses propres biens, dots et acquisitions et pouvait éventuellement réclamer sa part du patrimoine commun. Un tel régime matrimonial mixte présuppose la participation active des épouses à la formation et à l'accroissement du patrimoine familial. L'objectif était de permettre aux membres masculins de leur famille d'occuper une place permanente dans la vie sociale de leur cité. Si la propriété représentait en effet au niveau du ménage le moyen économique permettant le maintien de la famille, elle était au niveau de la police une des qualifications autorisant à participer à la vie publique. Elle était ainsi étroitement liée au désir d'influence et de prestige des membres masculins de la famille. Pour paradoxal que cela puisse paraître, la liberté de disposition de l'épouse sur ses propres biens a ainsi conduit à consolider la position hiérarchique du mari. De même, la possibilité pour les époux d'agir conjointement a conduit à réduire le danger que l'éventualité d'une restitution de la dot représentait pour la position sociale du mari. Les mariages n'étaient pas seulement célébrés dans les anciennes poleis grecques, mais aussi dans les nouvelles poleis et dans les royaumes récemment fondés. Mariage entre émigrants grecs venus de différentes cités, ainsi qu'entre émigrants grecs et populations locales. Outre les soldats et mercenaires macédoniens ayant pris part aux campagnes militaires, un grand nombre de civils, hommes et femmes, vinrent s'installer pour diverses raisons dans les royaumes hellénistiques. Ces nouveaux environnements offraient aux arrivants de nouvelles opportunités, mais ils représentaient aussi pour eux des grands défis. Les conquérants ne formaient pas du tout un groupe uniforme, car les Grecs étaient d'origine différente. Quand on parle de mariage mixte, on oublie que l'on considérait comme tel non seulement les mariages entre immigrants grecs et populations locales, mais aussi les mariages entre Grecs originaires de différentes cités ou régions de Grèce. De ce point de vue, les contrats de mariage de l'Égypte ptolémaïque étaient le résultat de compromis entre les conceptions et les traditions du marié et de la mariée avec leur famille respective. Il n'existait pas de droit ptolémaïque homogène. Il ne s'est mis en place que progressivement par des négociations de ce genre. Le premier contrat de mariage que nous avons sur papyrus a été conclu en 310 avant notre ère dans la vie militaire d'Éléphantine entre Héraclides, originaire de Timnos, une cité en Asie mineure, et Démétria, originaire de, de l'île de Kos. Et je cite le commencement de ce contrat. Héracléides prend comme épouse légitime Démétria de Kos, de son père Leptinès de Kos et de sa mère Philotis, les deux époux étant de naissance libre. Elle apporte, à titre de dot, des vêtements et des bijoux d'une valeur de 1000 drachmes. Le contrat de mariage commence par répéter en prose l'acte de langage bien connu impliquant le tuteur de la mariée et le marié. Le père de la mariée n'est pas le seul garant de l'ascendance légitime ou du statut personnel de la mariée. Sa mère est aussi nommément mentionnée. Lors de la remise de la dot, il n'est pas fait référence à la personne qui l'a constituée. C'est l'épouse qui apporte elle-même la dot dans le mariage. La dot est estimée dans sa totalité alors qu'elle est composée de vêtements et de bijoux, c'est-à-dire d'objets constituant normalement le trousseau personnel de la mariée et qui, à ce titre, n'était généralement ni déclaré ni estimé. Le reste du contrat du mariage se lit comme un dialogue entre les deux époux, dans lequel sont fixées les conditions de leur communauté matrimoniale, c'est-à-dire leurs obligations l'un envers l'autre. Le futur époux s'engage d'abord à mettre à la disposition de Démétria tout ce qui convient à une femme libre. Il ne lui est pas permis d'introduire chez lui une autre femme au détriment de Démétria, ni d'avoir d'enfant avec une autre femme, ni d'agir mal à l'égard de Démétria sous aucun prétexte. Démétria, pour sa part, s'engage à ne pas avoir un comportement susceptible de faire honte, de faire échiner à son mari Héracléides. Une transgression de ces accords de la part de Démétria, prouvée devant des témoins, signifiait la perte de sa dot, tandis que dans le cas d'une infraction du mari, la sanction prévue était la restitution immédiate de la dot accompagnée d'une amende d'un montant égal à la valeur de la dot. Comme vous voyez ici, ce sont des 1000 drachmes pour la dot et 1000 drachmes d'argent frappé à l'effigie d'Alexandre comme amende pour la transgression. Les deux époux recevaient chacun un exemplaire du contrat du mariage. Établir une hiérarchie des conjoints au sein de la famille, garantir la sécurité financière de la femme pendant le mariage et bien sûr la protection de sa dot, assurer les droits successoraux des enfants communs, se défendre contre les risques d'une perte de statut social. Tous ces aspects étaient manifestement aux yeux des époux des éléments constitutifs fondamentaux d'un mariage. En eux-mêmes, ces points ne sont pas inconnus, mais leur combinaison concrète me paraît représenter une nouveauté. Ce que les époux considéraient comme un lent de soi dans leur environnement familial et social respectif, grâce aux codes de conduite et aux normes juridiques élaborées localement, devaient à présent faire l'objet d'adaptation. Dans leur communauté d'origine, le comportement des époux l'un envers l'autre était régulé par le contrôle social du voisinage, des dèmes, des fratries, etc. En l'absence de ces mécanismes, il fallait mentionner explicitement les transgressions et leurs actions. Si on en avait eu la possibilité, comme par exemple à Cnidos, aussi une cité dans l'Asie mineure, d'arrêter les rumeurs sur une prétendue infidélité à l'aide d'une prière de justice publique, il n'aurait sans doute pas été nécessaire d'introduire des clauses particulières sur l'adultère, la violence dans le mariage ou les comportements susceptibles de faire honte. Ce qui est nouveau, c'est précisément ce mélange entre les points de vue sociaux et juridiques qui donne un contenu au cadre fourni par le rituel traditionnel de la dation, l'ektosis ou l'engie. Outre celle-ci, sur laquelle le dernier document que nous avons date de 304 de notre ère, les aspects traditionnels sont aussi ceux qui concernent la protection de la dot et sa contribution en finances familiales. Les clauses succinctes et assez vagues du contrat d'éléphantine sont développées avec différentes variantes dans le 31 contrat de mariage d'Alexandrie et de la Hora, rédigé entre 310 et 1211 avant notre ère. L'image du couple marié y est clairement hiérarchisée, avec le mari comme chef de famille. C'est lui qui assume la responsabilité de fournir à son épouse le nécessaire et les vêtements, la nourriture et l'habillement, et même les meubles, comme on le fait pour une femme légitime dans la mesure où les lui permettent ses ressources. La femme doit, et je cite encore, « rester avec son mari, lui obéir comme une femme à son mari ». Et elle est appelée « maîtresse, kyrieousa, de leur bien avec lui ». Mais les contrats de mariage fixent aussi des limites à cette position dominante du mari. Il doit des égards à l'épouse donnée et dotée, comme l'écrivent Marie Verilac et Claude Vial. Il ne peut ni l'expulser, ni la maltraiter, ni l'insulter. Et surtout, il ne doit pas remettre en cause sa position d'épouse et de maîtresse de maison par des relations extra-conjugales de longue durée. Et je cite d'un papyrus venant de Tep-Tunis, il ne sera pas loisible à Philiscos de prendre une autre femme qu'Apollonia, ni d'avoir une concubine ou un mignon, ni d'avoir des enfants d'une autre femme qu'Apollonia, ni de vivre dans une autre maison dont Apollonia ne sera pas la maîtresse. En d'autres termes, et c'est le but de cette clause détaillée, le mari ne doit pas détourner ou endommager le patrimoine familial ni compromettre la relation conjugale. L'épouse ne doit pas non plus mettre en danger le mariage ni surtout couvrir de honte son mari et sa famille de quelque façon que ce soit par des aventures sexuelles ou par son comportement. C'est pourquoi elle n'est pas autorisée à s'absenter de la maison la nuit ni même pendant la journée sans le consentement de son mari. Les deux partenaires devaient donc reconnaître l'importance de leur mariage et ne pas le mettre en danger. Mais tout ne se passe pas comme le prescrivent les contrats de mariage. C'est ce dont témoigne un document sur une femme appelée Sira de la ville égyptienne d'Oxyrhynchos. Sira porte plainte auprès du président du tribunal, l'archidicastèse, contre son mari divorcé, qui n'avait pas encore ordonné de lui restituer sa dot. Et je cite, la carte avec Oxyrhynchos est maintenant le passage. Il a dilapidé ma dot pour en faire ce qu'il voulait. Il n'a pas cessé de me maltraiter, de m'outrager, de porter les mains sur moi et de me laisser manquer du nécessaire. Pour finir, il m'a abandonné en me laissant dépourvu du tout. Le mari de Sira n'était pas un cas isolé, car même si l'épouse était autorisée à participer à la gestion du ménage en tant que maîtresse de ses biens, le mari gardait la libre disposition du patrimoine familial. Comme Yuri Yevtakhferenko a pu le montrer, non seulement on était tout à fait conscient de cet état de fait, mais on a essayé d'y remédier. Les adaptations du contrat de mariage aux circonstances particulières, concrètes, montrent que l'on s'est forcé constamment de les rendre réellement contraignants. En témoignent les modifications apportées à l'authentification du contrat, au règlement concernant la remise et la restitution de la dot, ou encore à la situation de l'épouse lorsqu'un mariage prenait fin par divorce ou par décès du conjoint. La femme est sans aucun doute la gardienne et la gérante de la propriété. Brisson en était convaincu et les sources montrent que les conditions étaient réunies pour que ce fût effectivement le cas. On peut observer comment, à l'époque hellénistique, les rituels de l'ecdosis ou de l'enguier a fait l'objet d'une réinterprétation dans laquelle la conception de la dot comme actif productif est de plus en plus passée au premier plan. Les nouvelles marges de manœuvre ainsi créées ont sans nul doute été utilisées par les épouses, mais plutôt en faveur de leur famille et surtout de leur mari. Il y a eu des ajustements dans la relation asymétrique entre les conjoints, mais pas de véritable changement de position. Je vous remercie.